RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi la mise au point de la semaine. L'arbitre suivante, l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. Vous pouvez également écouter magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Selon le président, le centre économique se déplace vers le Pacifique. Le ministre de l'Industrie a tenu une réunion avec des hommes d'affaires américains. Le système d'alerte précoce de l'Indonésie est devenu une norme internationale. HKTI est prête à tenir un forum asiatique de l'agriculture et de l'alimentation 2018. L'Indonésie et l'Australie sont prêtes à aider le Myanmar à résoudre le problème de Rohingya. Charami nous présente maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré à International Convention Center Sydney, l'Australie, le samedi, que le centre économique se déplaçait de l'Atlantique à la région du Pacifique. La valeur commerciale la plus élevée peut être trouvée en Asie Pacifique. Le président a fait la déclaration devant les dirigeants de la société et le premier ministre australien Malcolm Turnbull au forum de PDG au sommet spécial ASEAN-Australie 2018. Dans son discours, le président a livré une théorie pourquoi les conditions politiques étaient devenues si colorées ces dernières années. La cause est Netflix. Netflix est un service payant pour les utilisateurs à regarder les émissions en utilisant leurs appareils gadgets, à la fois sur le téléphone mobile, smart TV, la tablette, ordinateur et ordinateur portable. Conformément avec le président Joko Widodo, le premier ministre australien a dit qu'au cours des 40 dernières années, la région du Pacifique a connu une croissance économique et il n'y a aucun signe de ralentissement. Le Fonds monétaire international estime au cours des 5 prochaines années, 6 des pays membres de l'ASEAN vont croître plus vite que la Chine et tous les pays membres de l'ASEAN vont croître plus rapidement que les États-Unis et l'Union européenne. Le ministre indonésien de l'Industrie, M. Erlangga Hartarto, a tenu une réunion avec des hommes d'affaires américains opérant en Indonésie qui sont membres de la délégation du Conseil les États-Unis ASEAN Business à Jakarta pour discuter de divers développements d'affaires et de la coopération. Le ministre Erlangga Hartarto, par une déclaration officielle samedi, a déclaré « Aujourd'hui était le bon moment pour les acteurs de l'industrie dans le pays de continuer l'expansion, parce que le gouvernement se préoccupe de plus en plus sur la création d'un climat d'affaires favorable et ouvre une facilité d'octroi de licences et le maintien de la disponibilité des matières premières. » Selon lui, le secteur manufacturier en Indonésie montre des activités positives parce que les entrepreneurs croient de plus en plus à développer l'activité et absorber la main d'œuvre. Plusieurs résultats de recherche internationaux montrent que l'Indonésie est toujours la principale destination des investissements. Comme un sondage de US News and World Report dans lequel l'Indonésie est classée comme la deuxième meilleure destination d'investissement dans le monde de 80 pays. En fait, l'Indonésie devient également le plus grand pays de l'économie numérique de l'ASEAN en 2020. L'Organisation internationale de normalisation, ou ISSO, stipule officiellement un système d'alerte précoce de glissement de terrain à base communautaire de l'Indonésie qui est développé par l'Université Gadjah Mada avec l'Agence nationale de gestion de catastrophes, ou BNPB, devient une norme internationale. Le chef de BNPB, M. Willem Rampangile, a dit à Jakarta récemment que le système d'alerte précoce de glissement de terrain était une forme de contribution indonésienne dans le partage de connaissances et l'expérience du monde pour sauver la société de la menace de glissement de terrain. Lié à la sécurité et la résilience, le secrétariat de ISO-TC 292 vendredi au Bureau australien de normalisation Sydney a déterminé que le système d'alerte précoce pour le glissement de terrain d'Indonésie peut être publié comme ISO 22327. Avec cette détermination, le système pourrait être un guide de la mise en œuvre du système d'alerte précoce de glissement de terrain à base communautaire et renforcerait l'Indonésie en tant que laboratoire mondial des catastrophes. La société est très importante dans la partie de système parce que c'est eux qui auront des menaces. La société devrait prendre une partie dans le système et devrait comprendre comment le système fonctionne. L'Association de l'harmonie des paysannes indonésiennes, ou HKTI, organisera le Forum asiatique de l'agriculture et l'alimentation 2018 qui aura lieu à Jakarta Convention Center du 27 juin au 1er juillet 2018. Le président de HKTI, le général à la retraite Muldoko à Jakarta, a dit récemment que l'événement qui sera assisté par des représentants des pays asiatiques a pour but de renforcer la politique alimentaire indonésienne. Selon M. Muldoko, le Forum asiatique pour l'agriculture et l'alimentation est également bénéfique pour le côté socio-culturel et touristique, car il y aura également des foires alimentaires de différentes régions. Muldoko espère également que cet événement alertera le monde que la question de sécurité alimentaire est très importante, non seulement sur l'aspect de la disponibilité, mais aussi de la ressource. La situation actuelle de Rohingya et Rakhine au Myanmar a été soulignée lors de la réunion entre les ministres des Affaires étrangères indonésiens et australiens. La réunion qui s'est déroulée vendredi matin à Sydney, Australie, a généralement discuté de la situation de la région Indo-Pacifique, de la coopération entre les deux pays et des questions internationales. Comme ce qui est cité vendredi par la réplique de Sydney, le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que les deux gouvernements parlaient de mesures pour aider le Myanmar et Bangladesh, surtout pour l'humanité. Selon Mme Retno Marsudi, l'Indonésie et l'Australie ont fourni une assistance aux réfugiés de Rohingya. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, il y a actuellement plus de 400 000 réfugiés de Rohingya qui vivent temporairement à la frontière entre le Myanmar et le Bangladesh. Retno Marsudi a affirmé que l'accord entre les deux pays n'était pas seulement pour résoudre le problème humanitaire des réfugiés, mais aussi la politique interne du Myanmar à Rohingya. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique La mise au point de la semaine, intitulée Banque Wakaf Alternative de Financement Micro. La Banque Wakaf a été ouverte à Serang dans la province de Banten, Cirebon, Java West et à Surabaya dans la province de Java Est. Cela a été dit par le président Jokowi après l'inauguration du programme de la banque micro-wakaf An-Nawawi Tanara à Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Provence Banten, mercredi. Pesantren est un lieu hébergement provisoire. La banque micro-wakaf est institution microfinance sharia fondée avec la permission de l'autorité des services financiers ou OJK qui vise à fournir un financement sans collatéral à la communauté au niveau micro avec une valeur maximale de 3 millions de rupiah et les frais administratifs sont seulement 3%. Le président Joko Widodo a déclaré que le but de la création de la banque micro-wakaf était de fournir des fonds de prêt aux pionniers des petites et moyennes entreprises. Le président a expliqué que le segment géré par la banque wakaf est le segment de la vente de fritures, de riz, de oudouk, les vendeurs de neuf matériaux de base. Le président du Conseil des ulémas indonésiens, MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, a approuvé la déclaration du président. Selon lui, qui est aussi le fondateur de Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, les gens veulent l'économie du peuple en tant que nouveau flux de l'économie indonésienne qui a commencé son développement à partir du bas. Il a apprécié le président qui a répondu à cette question avec un programme de redistribution des actifs et partenariats. Maintenant, le président construit également des banques micro-wakaf dans 20 pesantren pour établir une base autonomisation de l'économie de la communauté. Le fondateur de Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara a indiqué que la banque micro-wakaf pourrait être un lieu de pratique des théories pour les étudiants de pesantren sur le système d'économie fikih qu'ils ont appris en pesantren, tels que fikih de la bancaire, fikih de jurisprudence du marché des capitaux et fikih de l'assurance. Le président Jokowi a déclaré que le gouvernement fournit un budget de 8 milliards rupiah pour chaque banque micro-wakaf. Le montant du prêt est ajusté au type des affaires. Avant d'obtenir le financement, les personnes qui demandent un prêt à la banque micro-wakaf recevront également du mentorat. Le processus de mentorat et de financement des banques micro-wakaf sont faits sous la forme de groupe. Chaque groupe de clients est composé de 3 jusqu'à 5 personnes. Chaque groupe reçoit une formation obligatoire pendant 5 jours consécutifs et ensuite il y a une réunion hebdomadaire. Le président a promis d'encourager les donateurs de donner leurs fonds pour le développement de la banque wakaf. Chers amis, c'était la mise au point de la semaine de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Ces auditeurs de teaser, on va écouter maintenant l'histoire d'aujourd'hui, l'édition du 18 mars. On va commencer le 18 mars 1937 et l'explosion à l'école de New London. Le 18 mars 1937, il y a eu une explosion à l'école de New London au Texas à cause de la fuite de gaz naturel. Cette explosion a détruit l'école de New London, une communauté à Rush County qui est connue auparavant sous le nom de London. Au début de 1937, le conseil d'école a annulé son contrat de gaz naturel et a demandé aux plombiers d'installer des robinets dans le canal des résidus de gaz de la compagnie d'essence pour économiser de l'argent. La force de l'explosion était si grande qui a fait un bloc de béton pesant 2 tonnes a été jeté du bâtiment. Il y avait environ 500 étudiants et 40 enseignants dans le bâtiment à ce moment-là. Cet incident a tué plus de 295 étudiants et enseignants, de sorte qu'il était devenu l'incident scolaire le plus meurtrier de l'histoire américaine. Jusqu'à présent, cet incident est encore la troisième catastrophe la plus meurtrière dans l'histoire du Texas, après la tempête de Galveston en 1905 et la catastrophe de la ville de Texas en 1947.
Thank you.
On change le 18 mars 1953, tremblement de terre en Turquie. Le 18 mars 1953, un tremblement de terre s'est produit dans les provinces de Kanakal et Balıkesir dans la région de Marmara dans la Turquie de l'Ouest. Ce tremblement de terre a une échelle de 7,5 et provoque des grands dommages. Cette catastrophe a tué 1 060 morts et a provoqué des dégâts dont le frais de réparation atteint plus de 3 millions de dollars. Les dégâts causés par ce tremblement de terre ont conduit à une nouvelle loi de reconstruction nationale en Turquie. Entre 2018 mars 2000, Sun Shui-bian a été élu président de la République de Chine. Sun Shui-bian a été président de la République de Chine pour la période 2000 à 2008. Le résultat des élections du 18 mars 2000 a fait changer le contrôle du pouvoir et de la politique de la République de Chine ou de Taïwan. En 1998, il n'a pas pu rivaliser avec un candidat du Kuomintang pour occuper la chaise du maire de Taipei. Il a ensuite remporté les élections présidentielles de 2000. Il est devenu le premier président du parti à Taïwan, en plus de Kuomintang. Le parti Kuomintang a régné à Taïwan pendant plus de 50 ans. Sun Shui-bian et Annette Lu Xius Lien ont été à sa mante en tant que président et vice-président de Taïwan lors d'une cérémonie au bureau présidentiel à Taipei le 20 mai 2000. Ces auditeurs, c'était notre histoire d'aujourd'hui, ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie à Jakarta, chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée Palembang propre pour accueillir les Jeux Asiatiques de 2018. Le ministère de l'Environnement et des Forêts, avec le gouvernement de la ville de Palembang, ont intensifié 3 bulan bersih sampah ou 3 mois nettoyer les déchets en effectuant une action propre des ordures lors de la journée sans voiture à Kambang Iwak, la ville de Palembang, Sumatra du Sud. La mise en œuvre de 3 mois nettoyer les déchets ou TBBS du 21 janvier jusqu'au 21 avril 2018, mais ce mouvement massif de déchets ne sera terrible après le 21 avril. Rosa Vivin Ratnawati, la directrice générale de la gestion des déchets et des matières dangereuses du ministère de l'Environnement et des Forêts à Palembang, lundi a déclaré que ce programme devrait être déclenché et encouragé. La sensibilisation des gens à appliquer toujours le système de vie de réduire, manipuler et traiter les déchets. Selon Vivin, cette activité a pour but d'inviter les habitants de Palembang à se préoccuper davantage de la région, cela veut dire de la gestion des déchets, ainsi que la préparation et la diffusion de la campagne sans gaspiller plus de jeux lors des prochains Jeux asiatiques. Jusqu'à présent, environ 1500 activités de TBBS dans 20 provinces ont été menées, impliquant plus de 2 millions de personnes. L'activité a pu collecter plus de 173 tonnes de déchets traités, soit plus de 631 tonnes de déchets organiques et environ 542 tonnes de déchets inorganiques. Tandis que les résidus, ce qui est envoyé à la disposition finale, est environ 586 tonnes. Cela indique que l'initiative de gestion des déchets, que une collaboration entre la communauté et le gouvernement local était bien mise en œuvre et doit être appréciée. En outre, il y aura également un guide de gestion des déchets pour les scouts. Selon le maire de Palembang, Haji Ahmad Najib, la ville de Palembang s'améliore pour accueillir les Jeux Asiatiques 2018 et soutient la réalisation des déchets propres en Indonésie 2020. Il a déclaré que l'action propre des déchets à Palembang était également animée par l'artiste qui se soucie des questions environnementales avec sept ambassadeurs de patrouille de déchets. En outre, dans cette activité, on organisera également le dialogue participatif avec un certain nombre de communautés pour réaliser Palembang est propre des ordures. En outre, dans le cadre de cette activité, il y a aussi une formation à la gestion des déchets pour 100 membres de Scout Saka Wana Bakti par le personnel expert du ministère de l'Environnement dans le domaine du développement des jeunes générations pour que Pramuka et le Scout deviennent un agent de changement environnemental, notamment les gestions de déchets. Des activités similaires avec le concept Moang de déchets ou l'organisation d'un événement de déchets minimal a eu lieu à Semarang et se déroulera dans diverses villes telles que Makassar, Ambon, Yogyakarta, Jayapura et Banjarmasin jusqu'à 15 avril cette année. Chers amis, voilà mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici Magazine Culturel. Cette fois, nous allons vous présenter le thème L'expression de deuil de la tribu Dani. Donc, restez toujours avec nous à la Voix de l'Indonésie sur www.voinews.id. Il y a plusieurs tribus qui habitent sur l'île de Papouasie, ayant de la tribu de Korowai, la tribu Asmat, la tribu Kamaro et la tribu de Dani. L'une des tribus de Papouasie qui a des caractéristiques uniques et intéressantes est la tribu de Dani. La tribu de Dani qui habite dans la vallée de Balim Wamena en Papouasie est en effet connue pour avoir beaucoup d'unicité, ayant des vêtements koteka, la tradition de couper le doigt, qui est une forme de condoléance si l'une des familles sont mortes. La forme d'expression de la tristesse de la tribu de Dani est prête à couper les doigts, les oreilles ou bien couper les orteils, et l'expression de deuil de la tribu de Dani s'appelle Nasu Palek, à savoir couper un peu d'oreille. Et la tradition de Nasu Palek utilise l'équipement simple sous la forme de bambou finement tranché et sans médicaments. Pour ceux qui veulent couper un doigt, utilisez un outil traditionnel appelé une hache de pierre. Nasu Palek n'est pas seulement fait par les hommes, mais les femmes suivent également cette tradition extrême. Mais la différence pour les femmes, avant qu'elles fassent la tradition de couper l'oreille, elles doivent faire d'abord la tradition de Iki Palin, à savoir de couper le doigt si la mère, le père, l'enfant ou la famille sont morts. Si le doigt est épuisé, continuez en coupant un peu d'oreille, alors que les hommes font directement la tradition de Nasu Palek. Après l'oreille blessée, il est couvert de plantes médicinales. Avec le développement de l'âge et influence de la religion, la tradition de Nasu Palek a commencé à être abandonnée. Et maintenant, le gouvernement a interdit de faire la tradition de la coupe au doigt, car il est considéré comme moins humain. Mais les restes de cette tradition peuvent encore être vus chez les mères et les grand-mères de Dani, dont les doigts sont coupés. C'était un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Dans cette édition, nous allons parler du sujet de la découverte d'objets archéologiques historiques sous la forme d'une statue de Dieu. Un agriculteur dans le village de Ngerejo, la région de Tulungagung, Java de l'Est, qui s'appelle Surani, a accidentellement trouvé l'objet archéologique historique sous la forme d'une statue de Dieu. Quand il l'a trouvé, Surani nettoyait ses champs de maïs dans une ancienne forêt protégée déboisée. Il était aidé par plusieurs autres fermiers et ils ont trouvé la statue en pierre sous la forme de sculpture d'une statue de Dieu. Comme une déclaration officielle du chef de la section de la préservation du patrimoine culturel du Bureau de la culture et du tourisme de la région de Tulungagung, Winarto, dimanche 4 mars, a déclaré que cette sculpture mesurant 50 par 80 cm. La nouvelle sur la découverte du site archéologique ont rapidement circulé de sorte que d'autres résidents, y compris l'activiste de Pok Darwis, ou groupe de sensibilisation au tourisme du village de Ngerejo, sont venus et fait un balayage dans la zone de découverte de cet objet ancien. Et ensuite, il y a plusieurs autres structures rocheuses trouvées qui ne sont pas loin du point de la découverte de la statue, comme Umpak, c'est la fondation du poteau de construction puits et un certain nombre de poteries anciennes. Pour suivre la découverte de la statue, l'autorité du district de Tulungagung a coordonné avec la salle de préservation du patrimoine de Trawulan pour faire des recherches de cette statue de Dieu et pour faire des excavations autour de l'emplacement de la découverte. Le personnel de l'agence de préservation du patrimoine culturel, Trawulan, M. Haryadi, qui travaille comme le gestionnaire du méso. Qui travaille comme le gestionnaire du musée de Wajah Kensis Tulungagung a déclaré qu'au début l'équipe a suspecté que c'était le statue de Agastya parce que la structure est similaire. Après avoir discuté avec archéologique, on estime qu'elle est le statue de Nandiswara. Selon Haryadi, cette conclusion est encore une estimation initiale. Cette question sera étudiée plus par l'équipe de archéologique de Trawulan. Les reliques du royaume de Majapahit sous la forme de statues et de temples sont largement répandues dans le district de Tulungagung, Java Est. Si vous voyagez par la voie terrestre, la distance de Tulungagung à Trawulan, la régence Mojokerto Java Est, est environ 111 km. Jusqu'à présent, on soupçonne que la région de Trawulan est le centre du royaume Majapahit. Le royaume a été établi à partir de l'année 1293 jusqu'à 1500 avant Jésus-Christ. Selon le site officiel de Bapeda Tulungagung, il y a plusieurs temples reliques du royaume Majapahit. Le royaume qui est célébré pour le roi Saplang Hayam Uruk et Majapatih Gajah Mada, comme le temple de Gayatri dans le village de Boyolangu au district de Boyolangu. La certitude de la statue de Dieu trouvée par Surani, comme le reste des ruines du royaume Majapahit, doit attendre les résultats de l'équipe de recherche archéologique. Chers amis, c'était l'Ironie en couleur pour aujourd'hui. Merci à tous et au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons présenter un groupe musical néo-rotique. Chers auditeurs, pour commencer le compte d'aujourd'hui, je vous présente une chanson intitulée Hallucinasi ou en français Hallucination. Bonne écoute et restez ici avec nous à voynews.id.
Hello.
Voilà, la chanson intitulée Hallucinasi ou Hallucination, c'est une chanson de collaboration entre le groupe Neurotique et un chanteur de rap professionnel d'Indonésie qui s'appelle Iwaka. Cette chanson est dans le deuxième album de Neurotique dont le titre est Dimension Alternative ou Dimension Alternative. Elle a été publiée au début de mars de 2018. La présence d'Iwaka dans la dernière chanson intitulée Hallucination, présente une nouvelle couleur. Le processus de création de cette chanson implique également d'autres musiciens comme Petra Chombing, qui agit comme producteur groupe de band de Neurotique, a commencé à être connu depuis la sortie de la première chanson intitulée Surga Durjana ou Paradis Maléfique. Bonne écoute! Thank you. Neurotic a été fondé en 2012 par Jonathan Mono O'Jones. Il est un ancien membre du groupe Alexa. Jones est un chanteur, compositeur, producteur et multi-instrumentiste dans le groupe. Il est le seul personnel officiel de Neurotic qui est également responsable de la direction de la musique de Neurotic. En 2013, Jones a invité ses amis musiciens à rejoindre au groupe Neurotic. Ils sont Eno, guitare, batteur, Satrio, guitariste, Bianos, bassiste et Andra, guitariste. La musique de ce groupe est influencée par différents genres tels que le rock, le pop, l'électronique et le synthétiseur de pop. Le goût ou la chanson intitulée Surga Duryana ou Paradis Maléfique que vous venez d'écouter a été publiée en 2013. Dans cette chanson, Neurotic parle que chaque être humain n'échappe pas au péché. Mais il y a des moments où les humains sont gênés de l'admettre. Ce soir de 10, c'était le magazine musical ce soir. Et à demain.
Temukan jalan.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french. Thank you. Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110, ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.